Session de rentrée par le PMA et Dominique Philippe. À Saint-Jeudard, le 15 septembre 1996, deuxième conférence.
Excusez du retard. Comme ils étaient nombreux. Ça a duré un peu plus longtemps qu'on le pensait. Mais vous êtes dans la joie d'avoir 40 frères nouveaux. C'est une grâce de Dieu.
Philosophique s'acquiert avec le secours de Dieu. La
la Sainte Trinité, la sagesse philosophique regarde en premier lieu l'homme, la sagesse théologique, doctrina sacra de Thomas d'Aquin, regarde en premier lieu Dieu. Et ça, c'est très important de voir que la sagesse philosophique part de notre expérience humaine et donc de l'homme. Essayez de comprendre quelle est l'expérience la plus révélatrice de ce qu'est l'homme. C'est intéressant, puisque c'est à partir de là qu'il faut partir pour une philosophie réaliste, à partir de l'expérience. Une philosophie réaliste part de l'expérience. Je me souviens d'un petit détail personnel, mais qui, pour moi, a été très révélateur. Je prêchais dans un Carmel de France, à Limoges. La prieure me dit, au bout de 2 jours que j'étais là, mon père, demain, il y a 5 prêtres ouvriers qui viendront prendre leur repas de midi. Est-ce que vous préférez le prendre séparément ou est-ce que vous préférez le prendre votre repas de midi avec eux? Alors je dis, c'est très bien, je ne me demande pas mieux de le prendre avec eux. C'est l'occasion de se rencontrer. Donc j'étais en Dominicain, eux n'étaient pas dans un habit religieux ou diocésain, ils étaient dans leur habit de travail. Alors au début, évidemment, on se regardait. Et puis la question tout de suite, mais qu'est-ce que vous faites? Cette question m'était posée. Moi, je n'avais pas à leur poser cette question. Je savais qu'ils étaient prêtres ouvriers. Alors ils m'ont tout de suite posé la question. Qu'est-ce que vous faites? Non pas dans le civil, mais qu'est-ce que vous faites dans votre vie religieuse? Alors, j'étais à ce moment-là à Fribourg et j'enseignais la philosophie à l'université. Alors, je leur ai dit, j'enseigne la philosophie à Fribourg. Alors, immédiatement, le plus âgé me dit, quelle philosophie? Oui, je savais bien ce qui était caché en dessous. Enfin, alors j'aurais dit, vous savez, quand on vous interroge et qu'on n'a pas tellement envie de répondre, parce qu'on sait que ce sera reçu d'une manière particulière. Alors j'aurais dit, mais pour vous, il y a plusieurs philosophies. Alors là, je l'ai coincé. Alors ils m'ont répondu, oh, on ne sait pas, c'est pas ça qu'on enseigne, nous. Je dis, oui, je sais très bien. Vous êtes prêtre ouvrier pour mieux connaître l'ouvrier. Eh bien, moi je fais de la philosophie pour mieux connaître l'homme. C'est ça qui m'intéresse. Parce que vous ne pouvez pas connaître vraiment ce que c'est que l'ouvrier si vous ne connaissez pas ce que c'est que l'homme. Là, je vous coince. Elle a dit, mais quelle philosophie? Mais la philosophie qui consiste à connaître l'homme. Il n'y en a pas 36. C'est connaître l'homme qui m'intéresse. Et comment connaître l'homme? Mais vous savez bien, vous regardez un homme qui travaille. Et suivant le travail qu'il fait, vous voyez qu'il travaille dans une usine. Vous savez bien que c'est différent. Eh bien, pour connaître l'homme, il faut connaître ce qui le fait. Il faut connaître les intentions de sa vie. Je développe un peu. Alors, tout d'un coup, il y en a un qui dit, mais ça c'est très intéressant cette philosophie. Alors je dis, mais c'est évident. Autrement, j'enseignerai pas, vous comprenez. Parce que si c'est des rasoirs, ce n'est pas la peine d'ennuyer les gens. Il faut essayer de les intéresser en montrant l'importance et l'intérêt de la chose. Alors, je leur ai dit, si vous voulez venir à Fribourg, venez. Je vous affirme, ça vous ferait beaucoup de bien. Parce que vous entrerez beaucoup plus profondément dans ce que... Alors, ils étaient tout à fait d'accord. On ne nous a jamais enseigné cette philosophie. Pour nous, la philosophie, c'est moi. Tandis que vous, vous regardez le travail. Je dis oui, c'est important. Parce que c'est une des occupations majeures de l'homme. L'expérience du travail. C'est ça, quoi. Qui est la plus grande expérience de notre vie. Qu'est-ce que c'est que le travail? En face de Marx, il faut quand même essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le travail. Et puis c'est le propre de l'homme de travailler. Alors, j'ai essayé de les intéresser à cette recherche. Puis quand ils étaient très pris, que l'hameçon avait bien pris, je leur dis, mais bien, voyez, ça, c'est la philosophie de Thomas d'Aquin. C'est la philosophie d'Aristote. Ah, c'est pas la philosophie de la Sorbonne. Non. Et c'est pas la philosophie que vous avez faite. Vous voyez, à partir d'un certain moment, on n'a plus du tout enseigné la philosophie qui nous permet de connaître l'homme. Et c'est pourtant ça qu'on doit faire dans le monde d'aujourd'hui. En plus, pour un croyant, seule une philosophie réaliste qui cherche la vérité permet de coopérer avec la foi. Seule une philosophie qui cherche la vérité coopérer avec la foi pour réaliser la théologie. La théologie, c'est l'œuvre commune du croyant et d'un homme intelligent. C'est ça la théologie. Et donc, les deux sagesses philosophiques et théologiques se tiennent. Tout le monde sait aujourd'hui, tous ceux qui font un peu de théologie, tout le monde sait aujourd'hui que toutes les erreurs théologiques proviennent de la philosophie. Et ça, c'est très important d'essayer de comprendre. Vous voyez, les erreurs théologiques d'aujourd'hui, c'est très rare qu'elles proviennent de leur foi, de la foi du théologien, mais elles proviennent de sa philosophie, de ses erreurs philosophiques qui se répercutent dans sa théologie. Une fois qu'on a compris ça, on comprend alors que tout théologien est responsable de ses erreurs théologiques. Et si ces erreurs théologiques sont empoisonnées, il va empoisonner ceux qui seront ses étudiants. D'où la gravité. Parce que la théologie atteint la foi, présuppose la foi. Et donc, celui qui doit faire de la théologie, l'Église demande que tous ses prêtres fassent de la théologie. L'Église demande que tous ceux qui doivent enseigner n'est pas une érudition. Ce n'est pas une science particulière. C'est une sagesse. Et la théologie réclame d'être sagesse. Parce que, par la foi, on atteint tout de suite le mystère du Christ. Et on atteint tout de suite ce qu'est la finalité de l'homme, du chrétien. Et on doit pouvoir justifier sa foi et montrer que notre foi chrétienne n'implique aucune erreur. Montrer que l'enseignement de l'Église, si même quelquefois en apparence, il apparaît en contradiction avec la science et les progrès de la science. En réalité, l'enseignement de l'Église cherche la vérité, prolongeant la révélation, et précise où certaines données scientifiques ne sont pas justes et sont en contradiction avec une saine philosophie de l'homme. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'être un théologien moraliste. C'est-à-dire qu'il essaie d'expliquer quelle est la morale de l'Église. Qu'il y a 100 ans ou 200 ans. Vous voyez, depuis le modernisme, donc le début de ce siècle et la fin du siècle précédent, c'est beaucoup plus difficile d'être un théologien moraliste. Un vrai théologien moraliste. C'est pas suffisant de dire « Thomas d'Aquin n'a rien dit là-dessus, alors je sais pas ce qu'il faut dire. » Je me souviens, nous avions de temps en temps, chez les Dominicains, des petites réunions entre professeurs, et spécialement théologie morale. Il y avait un excellent professeur, dominicain, qui restait fixé à la morale de Thomas d'Aquin. C'est très bien de la connaître, mais il faut comprendre qu'il y a des nouveaux problèmes qui sont difficiles et qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'il disait. Thomas d'Aquin n'a rien dit, moi je ne dis rien. Je dis, mais Thomas d'Aquin serait notre siècle, ces problèmes l'intéresseraient beaucoup. Parce qu'ils exigent d'aller très loin. Je me souviens, c'est pas vieux, c'est il y a, je crois, 10 ans de ça. Pour moi, c'est pas vieux. Le groupe de ceux qui s'occupent pour tous les problèmes sur la famille, donc beaucoup de médecins, et on m'avait demandé de parler de la fécondation artificielle et de dire, est-ce que vous croyez qu'un jour l'Église permettra cela? On m'avait prévenu. C'était une réunion particulière. Il y aurait très peu de foyers. Il y aurait surtout des médecins. Ce qui était moins drôle. Alors, j'aurais dit, l'Église n'a encore rien dit là-dessus. Mais c'est un problème qu'il faut regarder de très près et ne pas devancer autant qu'on le peut les décisions. pense pas. Ça vous tombera dessus. Et vous risquez d'être un peu en colère. Surtout vous, médecins. Je savais, parce qu'on m'avait demandé à cause de ça. On m'avait dit que ce sont des très bons médecins. Ils sont d'excellents chrétiens. Mais quand on les chatouille sur des problèmes de médecine, ils se considèrent comme supérieurs à l'Église, comme ayant l'intelligence de ces problèmes, et que si l'Église n'est pas dans leur sens, ils sont en opposition. Alors, je savais leur position, parce que sur une dizaine de médecins qui étaient là, il y en avait cinq qui pratiquaient de fait la fécondation artificielle. Déjà depuis 5 ans. Ils étaient persuadés qu'il fallait entrer dans cette perspective. Alors, je leur ai dit, je ne parle pas au nom de l'Église. Je parle en mon nom propre. Et en réfléchissant sur ces problèmes. Et considérant que c'est des problèmes, il faut essayer de voir clair, chercher la vérité. Et je leur ai dit, je vous parle donc au plan philosophique. Pour essayer de comprendre si au plan philosophique, c'est justifiable. Si vous prenez comme critère et justifiable ceux qui réussissent. Parce que je leur ai dit, au fond, pour la plupart des médecins, c'est ça le critère. Si ça réussit, mais faisons-le. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. On ne se pose pas la question, est-ce normal pour une activité humaine? Le critère d'une activité humaine n'est pas la réussite. Le critère de la foi n'est pas la réussite. Ce n'est pas l'efficacité qui domine toute notre vie morale. Et cela, on peut le montrer au plan purement philosophique. Parce que la finalité de l'homme, ce n'est pas la réussite. Ce n'est pas l'efficacité. Il y a des choses qui réussissent et qui peuvent être très mauvaises. J'avais beaucoup développé ça. En montrant que de fait, on est en présence d'une activité humaine qui a sa finalité propre. Et que cette finalité propre, on doit essayer de la comprendre. Je vous affirme que ça a été une dispute assez sanglante. Parce qu'ils avaient une peine énorme, comme médecin, à découvrir le dépassement d'efficacité. faire de la morale uniquement à partir des lois. Des lois de Dieu, oui. Mais je suis obligé d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Je peux tout régler avec les 10 commandements de Dieu. Je suis obligé de comprendre quelles sont les limites. puisse passer en Allemagne et d'y aller toujours, et que souvent il se trouvait devant des médecins qui disaient ouvertement à toute une série de jeunes qui faisaient leurs études de médecine, si parmi vous il y a des catholiques, surtout n'abordez pas ces problèmes en médecin, c'est-à-dire faites une médecine générale, mais surtout une médecine spéciale près du gynécologue. Parce que vous serez devant des problèmes que vous ne pourrez pas résoudre selon votre morale catholique. Et donc vous serez dans des conflits. Alors il m'a dit que chaque fois qu'il assistait à cela, il avait quand même 30 années de métier. Demandez la parole. Et prenez la parole pour répondre à ces médecins qui disaient ça. Et leur demandez ouvertement, êtes-vous catholique? Êtes-vous protestant? Quelle est votre religion? Là, il n'aimait pas répondre. Mais il est forcé. Et quand il disait qu'ils étaient protestants, la plupart du temps, et alors c'est pas étonnant, vous ne savez pas ce que c'est qu'être catholique. Et vous en traitez. Et vous dites qu'on ne peut pas, un catholique, ne peut pas répondre à ce qui se passe. Et lui disait, c'était un excellent gynécologue. C'est depuis 30 ans que je suis. Pas une seule fois, j'ai dû aller contre l'enseignement de l'Église. Et je voyais que tous ceux qui allaient contre prenaient des positions qui étaient mauvaises pour la femme, la mère, et qui n'étaient pas la vérité. Et il a dit ce témoignage, c'est très beau parce que pas beaucoup osent faire ça. Aujourd'hui un peu plus. Mais à ce moment-là, c'était le moment où tout éclatait. Et il me disait, on n'a pas. Non, je fais juste l'inverse de ce que ce médecin disait. Quand j'ai un jeune médecin catholique qui s'intéresse à ces problèmes-là, je dis, allez jusqu'au bout et n'hésitez pas. Si l'Église catholique cherche la vérité. S'il y a une assistance du Saint-Esprit, autrement dit, si on fait de la théologie et qu'on reconnaît ça, on peut être sûr qu'il n'y a pas de contradiction entre les conclusions scientifiques et la doctrine de l'Église. Je comprends très bien que ce sont des domaines très difficiles, très délicats. Et si on fait de la théologie, on doit s'y intéresser. Comme les problèmes de la justice. C'est comme les problèmes politiques. On ne peut pas dire que nécessairement celui qui fait de la politique doit perdre son âme. Dans certains milieux, c'est comme ça. On dit celui qui fait de la politique ne peut plus être catholique. Non, je ne crois pas du tout. Celui qui est catholique et qui est intelligent. Parce que la théologie réclame d'être intelligent, réclame la philo. Et une philo qui doit aller très loin. On ne peut pas dire que l'enseignement de l'Église empêche tel ou tel métier pour le médecin. Ce qui peut arriver, c'est que les lois disent des choses qui mettent les infirmières et les infirmiers dans des situations très difficiles. Ça, c'est sûr. Pour aussi, je l'avais déjà dit. Je l'avais dit, on va sans doute arriver pour tous ces problèmes de médecine devant des seuls, devant des positions très semblables aux positions de la primitive Église. Et que si on veut rester fidèle, on sera obligé de donner sa démission. Mais il le disait comme une position qui ne vient pas de la science et de la politique. Et ça, alors, je crois que c'est vrai. Donc, il faut distinguer, autrement, on fait des confusions. La théologie, c'est l'intelligence humaine cherchant la vérité qui se met au service de la révélation, qui se met au service de l'enseignement actuel de l'Église catholique. Pour expliciter, pour mieux saisir certains problèmes au plan moral, difficiles à bien saisir. La théologie, à la différence de la théologie de Thomas d'Aquin, fait qu'il y a de nouveaux problèmes très complexes, frontières, et qui pour ça sont difficiles à résoudre. Mais la théologie demeure, pour Thomas d'Aquin comme pour nous, l'intelligence humaine cherchant la vérité, donc une intelligence philosophique qui se met au service de la foi, de la parole de Dieu, de tout ce que la foi peut nous dire par rapport au mystère de la parole de Dieu. La différence avec Thomas d'Aquin, c'est qu'on est en face de développements théologiques divers. Pour Thomas d'Aquin, qui, lui, a rénové, a fait progresser la théologie. La théologie, pour lui, est avant tout spéculative, mais éminemment spéculative, en même temps pratique. Depuis Thomas d'Aquin, on a précisé qu'il pourrait y avoir une théologie biblique, qu'il pourrait y avoir une théologie de l'Église, qu'il pourrait y avoir une théologie spéculative, qu'il pourrait y avoir une théologie mystique. Et je crois que si on est honnête, c'est-à-dire si on cherche la vérité à partir de la foi, dans la lumière de la foi, dans la lumière de la révélation et d'enseignement actuel de l'Église, je crois qu'on doit reconnaître qu'il y a en effet à l'intérieur de la théologie divers développements ayant leur caractère propre. Voyez, l'exégèse n'est pas la théologie biblique. Mais la théologie biblique assume l'exégèse. La théologie de l'Église assume une histoire des dogmes. Et elle assume aussi un développement différents aspects de la sagesse qui reste humaine et divine. La sagesse philosophique est humaine. Elle doit se développer pour elle-même en restant ouverte à la sagesse théologique. la position de l'Église catholique. Pour l'Église catholique, l'intelligence humaine n'est pas touchée par les conséquences du péché originel. C'est la volonté qui est touchée. Alors, il y a des conséquences parce qu'on est paresseux. Oui. Si on est paresseux, on ne fera pas de philosophie. Avant la science, et qu'elle a toujours un droit d'aînesse, et que la philosophie est nécessaire pour la théologie. Donc, si mon intelligence est blessée, mon intelligence naturelle est blessée par les conséquences du péché originel, la philosophie ne peut plus être sagesse. Philosophie n'est plus sagesse, elle ne peut pas être au service de la foi. Or, aujourd'hui, comprenons que beaucoup de catholiques vont vers les protestants. Beaucoup. C'est très bien quand c'est pour l'œcuménisme, mais c'est moins bien quand on se convertit au luthéranisme. Comprenez bien, c'est Paul VI qui disait ça, avec beaucoup de netteté. Donc, si de fait, on comprend que l'intelligence humaine est blessée par les conséquences du péché originel, notre intelligence humaine ne peut revivre position hégélienne. Que grâce à la foi. Alors, c'est par la foi que l'intelligence humaine va revivre. Et donc, il n'y aura plus de distinction entre philosophie et théologie. Les deux se tiennent. Tandis que, pour un catholique, la philosophie est le fruit d'une intelligence qui cherche la vérité. Et la théologie est une intelligence qui se sert